Merci les musiciens, Dieu vous bénisse, bon culte à tous, que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez aussi sur le net maintenant, et que Dieu vous garde dans sa paix, que vous puissiez recevoir quelque chose ce matin qui vous encourage. On va faire une lecture dans Matthieu chapitre 3, verset 1. En ces jours-là, par Jean le baptiseur, il proclamait dans le désert de Judée, « Changez radicalement, repentez-vous, car le règne des cieux s'est approché. » C'est de lui qu'il a été dit, par l'entremise du prophète Esaïe, « C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, puis toute la Judée, de toute la région du Jourdain, se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Amen. Jean-Baptiste, ce puissant homme de Dieu, languissait en prison. Il avait prêché la venue du Christ avec autorité. Il avait baptisé des foules dans le Jourdain. Si jamais il y avait un prédicateur qui était efficace et qui était écouté, c'était bien lui, Jean-Baptiste. La Bible nous rapporte qu'il avait été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Un jour, il a baptisé Jésus. Il a reconnu que c'était lui le Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Il a entendu une voix du ciel qui proclamait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourtant, arriva un jour, avec des circonstances, Jean-Baptiste a été bloqué, arrêté, jeté en prison. Fini les foules, fini le ministère, plus de signes, plus de prodiges, plus de prophéties. En prison, tout seul. Sa nourriture était pire que le miel sauvage et les criquets qu'il avait l'habitude de manger. Et c'est alors que le doute a commencé à s'insinuer dans ses pensées. Le diable attend toujours le moment favorable pour commencer à vous mettre des doutes. Peut-être que Jésus n'est pas le sauveur tant attendu. Peut-être que ce n'est pas lui. Jean-Baptiste, il était tourmenté par cette pensée et il avait désespérément besoin d'une réponse. Alors, comme ses disciples pouvaient venir lui rendre visite dans la prison, il leur a dit, « Allez demander à Jésus s'il est le Messie ou s'il faut qu'on en attende un autre. » Alors, les disciples sont allés vers Jésus, les disciples de Jean le Baptiste sont allés vers Jésus, ils ont posé la question. Et la réponse de Jésus a eu un effet thérapeutique magnifique. Oh, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu d'accusation dans le genre. Quoi? Jean? Mais pourquoi est-ce que tu doutes? Non. Il n'y a pas eu de... Mais pense à tous ces gens que tu as baptisés, s'ils savaient que tu doutes, ben non, mais ce serait terrible. Pas de « Allez, Jean, secoue-toi, bouge-toi, arrête de te lamenter. » Non. Il n'y a pas eu de « Est-ce que c'est une façon de se comporter pour un homme qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère ?» Non. Je vous le dis souvent, hein, Jésus n'est pas mesquin. Rien de tout cela. Jésus a envoyé les disciples de Jean-Baptiste à Jean-Baptiste avec un simple témoignage. Allez dire à Jean, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, que les aveugles voient. Et cette bonne nouvelle des œuvres de Dieu ont eu raison de la tristesse et des derniers doutes de Jean-Baptiste. Tout ce dont Jean-Baptiste avait besoin dans ce moment de découragement, c'était d'entendre que le royaume de Dieu était proclamé et qu'il était accompagné de signes, de prodiges, de miracles. Ce magnifique compte-rendu des disciples de Jean-Baptiste, ce compte-rendu a fait merveille. Et il faut que vous fassiez la même chose. Il ne faut pas que vous alliez chercher des mauvaises nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles. Mais il faut que vous alliez chercher ce qui est beau. Regardez ce que Jésus fait aujourd'hui. Vous annoncez une nouvelle. Votre frère Nicolas va être ordonné et il va recevoir l'autorité pour aller prêcher dans tous les pays d'Afrique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un de nos fruits, quoi, va exploser dans toute l'Afrique. Et il va y avoir des conversions, il va y avoir des guérisons, il va y avoir... Je pensais à tout ça, je me réjouissais de tout ça, puis tout d'un coup, je me suis rappelé qu'il y a longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années, c'était quand on avait notre première voiture, celle qu'Osborne nous avait offerte, la petite deux chevaux. On était monté pour visiter le glacis du Rhône. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est immense. Et puis, il y a une grotte, on peut rentrer dans la grotte. Je l'ai mise en photo sur Révélation Bible. Il y a une grotte et puis on peut aller voir à l'intérieur, c'est très impressionnant. Et je me suis dit, c'est donc ici que prend naissance l'un des principaux fleuves d'Europe, ici. Ça ne paye pas de mine, c'est pas, il n'y a pas des flots qui coulent gigantesques, non, c'est très étrange, c'est presque silencieux. Vous savez, il y a des similitudes entre ce glacier et nos vies, et la vie de chaque chrétien, et la vie de Jean-Baptiste. Moi aussi, j'ai connu un départ modeste dans le ministère. Qui c'est qui croyait en moi? Personne. Ça ne m'a pas arrêté, j'ai continué et Dieu m'a accompagné par des signes, des prodiges, des miracles. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai bien fait de ne pas mépriser ces petits commencements qui étaient les miens et j'ai bien fait de me détourner de ceux qui méprisaient mes actes de foi. Quand je suis sorti de cette grotte du glacier du Rhône, alors je me suis retrouvé avec Michaud, il y avait quelques amis avec nous. On s'est retrouvés au grand soleil. Et là, j'ai vu cette immense masse de glace, ce glacier immense, comme des tours de glace, qui semblait ne pas bouger. Cependant, en contrebas, les morceaux de glace alimentaient les eaux du torrent qui sortait du glacier. On était boire quelque chose, et puis on est monté dans la voiture, et on est redescendu dans la vallée, et c'était donc dans le Valais. Il faut aller voir ça, c'est magnifique. Et nous sommes arrivés dans la plaine où coulait le fleuve, c'est immense. Le fleuve est immense. Et on a roulé pour rentrer... sur Chèvre, c'est là que nous avions notre demeure familiale, et nous avons vu l'endroit où le Rhône se jette dans le lac Léman. Soudain, plus de ronde. On ne le voit plus. Ça va être drôle, hein? Il disparaît. Un peu comme Jean-Baptiste, il disparaît. Pourtant, il est toujours là. Alors, il y a des scientifiques qui ont, il y a quelques années en arrière, ils ont coloré les eaux du Rhône et ils ont pu suivre la trace du Rhône tout au travers du lac Léman. Et ils ont vu qu'à Genève, le Rhône sort du lac. Et le Rhône est toujours aussi bouillonnant, arrachant au passage des blocs de rochers, des troncs d'arbres, très bouillonnant. Et puis plus bas, le Rhône semble se calmer. Et vous savez pourquoi il se calme? Eh bien, c'est à cause des travaux des hommes qui ont corrigé le tracé du fleuve. Ils ont partiellement endigué le fleuve afin de canaliser son énergie. Bien, mes frères et sœurs, il faut être reconnaissant pour tout. Même si, comme le Rhône semble disparaître dans le lac Léman, il faut être reconnaissant même si on disparaît pendant quelque temps. Même si des religieux essayent d'endiguer notre énergie. Le Rhône reste le Rhône. Et Michel Jonton reste Michel Jonton. Jean-Baptiste était coincé dans sa prison. Mais il était toujours Jean-Baptiste. Et quand j'y pense, moi aussi, comme le Rhône, j'ai quitté la Suisse et je suis venu, comme le Rhône, en France. Et en France, il se passe quelque chose avec le Rhône. Il y a des affluents de part et d'autre qui viennent gonfler le Rhône. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, mes frères et sœurs. Grâce à Dieu, j'ai combiné mes forces avec les forces de vous tous, de la communauté, et aussi avec Nicolas, avec l'Afrique. Et je ne suis plus le petit filet qui coulait au fond de cette grotte du glacier. Non, non, non. Et quand le Rhône arrive en Méditerranée, je crois qu'on appelle ça le delta, il est large, il est puissant. Parce que sur la distance, il a été soumis à des changements des fois qui ont été pénibles, hein? Des religieux qui ont essayé de m'endiguer, de me coincer, de m'assagir, soi-disant. Mais aussi des changements positifs en combinant mes forces avec la force similaire d'autres personnes, d'autres affluents qui sont venus se joindre à moi. Pensez-y. Nous sommes un, dit Jésus. Nous sommes un. Et où est-ce que nous allons? Eh bien, nous allons nous perdre dans... Nous allons perdre notre identité pour nous intégrer à quelque chose de bien plus vaste, comme le Rhône qui se jette dans la Méditerranée. Nous allons nous perdre dans l'immensité de Dieu. C'est ça, la fin de notre voyage. Alors que Dieu nous aide à vivre pleinement chaque étape de notre vie avec la force qu'on trouve en lui, dans la communion avec notre Dieu. Alors merci Seigneur de ne pas avoir méprisé mes petits commencements. Merci de nous avoir encouragés, nous tous aussi, par des signes, des prodiges, des miracles, des résurrections, et merci pour le chemin qui nous reste encore à faire, même si on arrive bientôt à la Méditerranée, hein, pour rejoindre l'horizon plus vaste du royaume de notre Dieu. Pensez-y, c'est votre vie aussi à vous. C'est votre vie aussi à vous. Soyez reconnaissants pour toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur de fortifier mes frères, mes sœurs, ceux qui sont encore peut-être coincés dans une prison et qui ont des doutes, qui se posent des questions, qu'ils se souviennent que malgré toute l'agitation qu'il y a dans ce monde, tu es un Dieu qui agit, qui répond aux prières sincères de ceux qui ont la foi, qui guérit encore, qui sauve, qui délivre. Je te prie, Seigneur, qu'ils reprennent courage et qu'ils soient forts et que ce que je leur ai dit ce matin soit comme un affluent qui vienne grossir leur force, amplifier leur force. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, à bientôt.